Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn. Chapitre 10, l'autre guerre civile. Sixième partie. En 1873, une nouvelle crise économique frappa le pays. C'est la fermeture de la banque de Jay Cooke, ce banquier qui, durant la guerre de sécession, avait gagné 3 millions de dollars de commissions en un an, simplement en vendant des bons du gouvernement, qui fut à l'origine de la vague de panique. Le 18 septembre 1873, au moment même où le président Grant dormait au domicile de Cook à Philadelphie, le banquier se rendit à sa banque pour mettre la clé sous la porte. Les gens ne pouvant plus s'acquitter de leurs créances, 5000 entreprises fermèrent leurs portes et mirent leurs employés à la rue. Mais cela dépassait de beaucoup la personne de Jay Cook. La crise intervenait dans le cadre d'un système chaotique par nature, dans lequel seuls les plus riches étaient en sécurité. Ce système était caractérisé par la périodicité des crises. 1837, 1857, 1873, et plus tard, 1893, 1907, 1919 et 1929. Des crises qui balayaient les petites entreprises et apportaient le froid, la faim et la mort aux gens du peuple, tandis que les Astor, les Vanderbilt, les Rockefeller et les Morgan poursuivaient leur ascension en temps de paix comme en temps de guerre, en temps de crise comme en temps de croissance. Pendant la crise de 1873, Carnegie fit main basse sur le marché de l'acier et Rockefeller se débarrassa de ses concurrents pétroliers. En novembre 1873, le Herald de New York consacrait sa une à la crise de l'emploi à Brooklyn et dressait la liste des fermetures et des licenciements. Un fabricant de jupes en feutre, une entreprise d'encadrement, une vitrerie et une aciérie. On trouvait aussi des activités féminines, modistes, couturières et ouvrières de la chaussure. La crise se poursuivit tout au long des années 1870. Au cours des trois premiers mois de 1874, quelques 90 000 travailleurs, dont près de la moitié étaient des femmes, durent dormir dans les postes de police de New York. On les appelait les « tournants » parce qu'ils ne pouvaient le faire qu'une ou deux fois par mois dans chaque poste de police et devaient donc continuellement se déplacer. Dans tout le pays, les gens étaient expulsés de chez eux et nombre d'entre eux erraient dans les villes à la recherche de nourriture. Des travailleurs désespérés tentèrent de rejoindre l'Europe ou l'Amérique latine. En 1878, le Metropolis, un bateau plein à craquer de travailleurs, quitta New York pour l'Amérique du Sud et coula au large avec tous ceux qu'il transportait. La Tribune de New York rapporta que, à Philadelphie, quelques minutes après la nouvelle du naufrage, les bureaux de placement de Madame Collins était assiégé par des centaines d'affamés postulant pour l'emploi des travailleurs noyés. En janvier 1874, à New York, un important défilé de travailleurs que la police avait empêché de rejoindre l'hôtel de ville se dirigea vers Tompkins Square, où on leur demanda de se disperser. Ils ne bougèrent pas et la police chargea. Un journal relate ainsi les événements. Les matraques de la police passèrent à l'action. Les femmes et les enfants courèrent en hurlant dans toutes les directions. Nombre d'entre eux furent piétinés dans le sauve-qui-peut général. Dans les rues, les spectateurs étaient impitoyablement évacués à coups de matraques par la police montée. On appela à la grève dans les filatures de Fall River dans le Massachusetts. Puis ce fut la grande grève des mines d'anthracite de Pennsylvanie, au cours de laquelle des Irlandais, membres d'une société intitulée Ordre ancien des Hiberniens, furent accusés d'actes de violence sur le seul témoignage d'un enquêteur infiltré parmi les mineurs. Il s'agit de ceux qu'on appela les Molly Maguires. Ils furent jugés et déclarés coupables. À cette période, pour briser les grèves, les employeurs importaient de la main-d'œuvre immigrée, cherchant désespérément du travail et étrangère à la langue et à la culture des grévistes locaux. En 1874, des Italiens furent transportés dans la région minière de Pittsburgh pour remplacer les mineurs en grève. Trois d'entre eux y furent assassinés. La tension s'accrut entre les Italiens et les travailleurs syndiqués. En 1876, le centenaire de la Déclaration d'indépendance fut marqué par la rédaction d'un certain nombre de nouvelles déclarations. Blancs et noirs y exprimaient séparément leur désillusion. Une déclaration noire d'indépendance dénonçait le parti républicain, dont les noirs avaient autrefois dépendu pour obtenir leur affranchissement, et proposait de fonder un parti politique spécifique aux électeurs noirs. En 1877, le pays touchait le fond de la dépression. Cet été-là, dans les villes étouffantes où des familles entières vivaient dans des caves et s'abreuvaient d'une eau fétide, les enfants se mirent à tomber malades en très grand nombre. La même année, une série de grèves de cheminots, dans une douzaine de villes des États-Unis, secoua la nation, comme aucun autre conflit du travail n'avait réussi à le faire au cours de toute son histoire. Cette grève débuta par des réductions de salaires dans la plupart des compagnies ferroviaires. Ces salaires étaient déjà particulièrement bas, 1,75 $ par jour pour un chef de train travaillant 12 heures par jour. Dans une situation de sévère exploitation et de profits immenses de la part des compagnies, les morts et les blessés étaient nombreux parmi les cheminots. Mains, pieds, doigts amputés, voire hommes écrasés entre deux wagons. À la gare de la Baltimore and Ohio Company de Martinsburg, en Virginie-Occidentale, les travailleurs résolus à ne pas accepter les réductions de salaire se mirent en grève, découplèrent les locomotives, les conduisirent dans la rotonde et annoncèrent que plus un train ne partirait de Martinsburg tant que la baisse de salaire de 10% ne serait pas annulée. Les gens vinrent leur apporter leur soutien en trop grand nombre pour que la police locale pût les disperser. Les administrateurs de la BNO exigèrent une protection militaire. Le gouverneur dépêcha la milice qui tenta de faire sortir un train de la gare. En essayant de le faire dérailler, un gréviste échangea des coups de feu avec un milicien. Le gréviste fut blessé à la hanche et au bras. On l'amputa, mais il mourut 9 jours plus tard. Quelques 600 trains stationnaient à présent dans la gare de Martinsburg. Le gouverneur de Virginie-Occidentale en appela lui-même au président Rutherford Hayes afin qu'il fît donner l'armée fédérale en prétextant que la milice de l'État était insuffisante. En réalité, cette milice, composée de nombreux cheminots, n'était pas vraiment fiable. Le gros des troupes américaines était occupé à combattre les Indiens à l'ouest et le Congrès n'avait d'ailleurs pas de budget pour cette mission de protection. Ce sont J.P. Morgan, August Belmont, ainsi que d'autres banquiers qui offrirent de payer la solde des officiers, mais pas celle des simples soldats, bien entendu. Les troupes fédérales arrivèrent à Martinsburg et les trains reprirent leur route. À Baltimore, une foule de plusieurs milliers de sympathisants à la cause des cheminots en grève fit le siège de l'armurerie de la garde nationale qui avait été appelée en renfort par le gouverneur à la demande des administrateurs de la BNO. La foule lança des pierres et les soldats sortirent en tirant. Les rues de la ville se transformèrent en véritables champs de bataille. À présent, 1500 personnes encerclaient le dépôt. Bientôt, 3 wagons de passagers, le quai et une locomotive étaient incendiés. Le gouverneur réclama l'envoi des troupes fédérales et Hayes finit par accepter. 500 soldats entrèrent dans Baltimore et le calme revint. La révolte des cheminots s'étendit rapidement. Joseph Dacus, le rédacteur en chef du Républican de Saint-Louis, écrivait « Des grèves éclataient à peu près toutes les heures. L'État de Pennsylvanie était en ébullition. Le New Jersey était paralysé d'effroi. New York rappelait une armée de miliciens réservistes. L'Ohio était ébranlé du lac Erie à la rivière Ohio. L'Indiana vivait un suspense effroyable. L'Illinois, et en particulier sa grande métropole Chicago, semblait au bord d'un gouffre dans la confusion et le tumulte. Saint-Louis avait déjà éprouvé les effets du choc précurseur de la révolte. La grève s'étendit à Pittsburgh et au chemin de fer de Pennsylvanie. À nouveau, elle éclata en dehors des syndicats traditionnels. L'administration locale et celle des chemins de fer, convaincus que les miliciens de Pittsburgh ne tireraient pas sur leurs concitoyens, firent appel aux troupes de Philadelphie. 2000 wagons étaient immobilisés à Pittsburgh, lorsque la milice de Philadelphie arriva pour faire redémarrer le trafic. On jeta des pierres et des coups de feu furent échangés entre les soldats et la foule des manifestants. 10 personnes au moins furent tuées. Toutes les victimes étaient des travailleurs en grève, pour la plupart des cheminots. La colère éclata dans toute la ville. La foule menaçait l'armée qui pénétrait dans la rotonde. Les wagons furent incendiés, ainsi que quelques bâtiments. Puis la rotonde elle-même et les soldats contraints d'en sortir. Les combats reprirent de plus belle. Les entrepôts de la compagnie prirent feu et des milliers d'individus pillèrent les wagons de marchandises. En quelques jours, 24 personnes, dont 4 soldats, avaient trouvé la mort. 79 bâtiments avaient été réduits en cendres. Une sorte de grève générale s'instaura dans Pittsburgh, réunissant les ouvriers, les transporteurs, les mineurs, ainsi que les employés de l'aciérie Carnegie. La totalité de la garde nationale de Pennsylvanie, 9000 hommes, furent appelés en renfort. Mais la plupart des régiments restèrent bloqués, les grévistes des autres villes contrôlant le trafic ferroviaire. À Lebanon, en Pennsylvanie, une compagnie de la garde nationale se mutina et défila dans les rues de la ville en liesse. À Altoona, les soldats assiégés par les émeutiers et immobilisés par le sabotage des locomotives rendirent les armes et fraternisèrent avec la foule avant d'être autorisés à rentrer chez eux. À Harrisburg, capitale de l'État, comme dans bien d'autres endroits, les adolescents composaient la majorité des émeutiers, parmi lesquels on trouvait également quelques noirs. À Reading, en Pennsylvanie, cela ne se passa pas ainsi. Il y avait là 90% d'Américains, le reste étant majoritairement allemands. Dans cette ville où existait par ailleurs une branche du syndicat des cheminots, les salaires des employés de la compagnie ferroviaire avaient 2 mois de retard. 2000 personnes se rassemblèrent, tandis que des hommes qui s'étaient couverts le visage de suie déboulonnaient méthodiquement des rails, bloquaient les aiguillages, renversaient les wagons et incendiaient les fourgons, ainsi qu'un pont de chemin de fer. Une compagnie de la garde nationale intervint, celle qui s'était chargée de l'exécution des Molly Maguires. La foule lui jeta des pierres et tira sur les soldats, qui ripostèrent alors sur la foule. Saint-Louis était la seule ville où la rébellion était clairement organisée par le Parti des travailleurs. On y trouvait des moulins industriels, des fonderies, des conserveries, des ateliers d'usinage, des brasseries et des chemins de fer. Là, comme partout, on diminua les salaires des cheminots. Mais Saint-Louis comptait près d'un millier de membres du Parti des travailleurs. Pour la plupart, boulangers, chaudronniers, ébénistes, accompagnés de cigariers et de brasseurs. Le Parti des travailleurs était organisé en quatre sections, selon la nationalité. Bohémiens, Anglais, Français et Allemands. Les quatre sections traversèrent le Mississippi en ferry pour participer à une réunion organisée par les Chemins de l'Est de Saint-Louis. Un responsable du parti prit la parole à cette occasion. « Messieurs, tout ce que vous avez à faire, ayant l'avantage du nombre, c'est de tomber d'accord sur cette seule idée, c'est aux travailleurs de diriger ce pays. Ce qu'un homme fabrique lui appartient, et ce sont les travailleurs qui ont fait ce pays. » Les cheminots de l'Est de Saint-Louis décidèrent la grève. Le maire de la ville était un immigrant européen, révolutionnaire actif dans sa jeunesse. En outre, électoralement parlant, les employés des chemins de fer dominaient la ville. À Saint-Louis même, le Parti des travailleurs organisa un rassemblement en plein air auquel 5000 individus participèrent. Le parti était clairement à la tête de la grève. Les orateurs, encouragés par la foule, se firent plus virulents. Ils exigeaient la nationalisation des chemins de fer, des mines et de toutes les activités industrielles. On entendit parler de ces grèves de chemins de fer jusqu'en Europe. Marx n'écrivit-il pas à Engels ? Que penses-tu des travailleurs américains ? Cette première explosion contre les associés de l'oligarchie capitaliste depuis la guerre de sécession sera bien entendu réprimée. Mais ce peut être un bon point de départ pour un véritable parti des travailleurs. À Saint-Louis, comme partout ailleurs, l'enthousiasme, les rassemblements de masse et les manifestations ne durèrent pas éternellement. Une fois le calme revenu, la police, les milices et les troupes fédérales entrèrent dans la ville et les autorités locales reprirent le contrôle de la situation. La police fit irruption au quartier général du Parti des travailleurs et arrêta 70 personnes. Les membres du comité exécutif qui avaient, pendant un moment, quasiment géré la ville, furent emprisonnés. Les grévistes baissèrent les bras et les salaires furent finalement réduits, comme prévu. La Burlington Railroad licencia 131 des principaux meneurs de la grève. À la fin des grèves de chemin de fer de 1877, auxquelles avaient participé 100 000 travailleurs, une centaine de personnes étaient mortes et un millier d'autres emprisonnées. Ces grèves avaient mobilisé un nombre incalculable de chômeurs dans les villes. Au plus fort du mouvement, plus de la moitié du réseau des transports du pays, c'est-à-dire 120 000 km de voies, avaient été neutralisés. Les compagnies ferroviaires firent bien quelques concessions en annulant certaines réductions de salaire, mais renforcèrent en même temps leur police du fer et du charbon. Dans un certain nombre de grandes villes, on construisit des arsenaux de la garde nationale avec des meurtrières pour les canons. Robert Bruce estime que les grèves firent prendre conscience de la dureté de la vie pour certaines catégories de la population et entraînèrent le vote de réglementations spécifiques aux chemins de fer par le Congrès. Il est également probable qu'elles ont favorisé l'activité syndicale de l'American Federation of Labor, l'Union nationale des travailleurs proposée par les Chevaliers du Travail et l'essor des différents partis agricoles indépendants des deux décennies suivantes. En 1877, l'année même où les Noirs réalisaient qu'ils n'étaient pas en mesure d'imposer la concrétisation de l'égalité promise après la guerre de sécession, les travailleurs comprirent qu'ils n'étaient ni assez solidaires, ni assez puissants pour battre la coalition des forces du capital privé et du gouvernement. Ils n'étaient pas au bout de leur peine. Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn.